Un objet que vous avez envie de casser parfois, je vous connais, peut-être même ce matin, tiens. Un objet qui prend le risque de disparaître, en plus à l'heure des portables, ordinateurs ou tablettes, mais que vous savez encore reconnaître, c'est le poste de radio. Souvenez-vous de la façon dont Francis Ponge la décrivait, sa radio, en prenant comme toujours avec ironie le parti pris des choses. Il disait « Cette boîte vernie ne montre rien qui saille, qu'un bouton à tourner jusqu'au proche décile, pour qu'au-dedans bientôt, faiblement se rallument plusieurs petits gratte-ciels d'aluminium. » Tandis que des brutales vociférations jaillissent qui se disputent notre attention. Un petit appareil d'une sélectivité merveilleuse. Ah, comme il est ingénieux de s'être amélioré à l'oreille à ce point. Pourquoi ? Pour s'y verser incessamment l'outrage des pires grossièretés, tout le flot de purin de la mélodie mondiale. Eh bien, voilà qui est parfait après tout. Le fumier, il faut le sortir et le répandre au soleil. Une telle inondation parfois fertilise. Pourtant, d'un pas pressé, revenons à la boîte pour en finir. Forte en honneur dans chaque maison depuis quelques années, au beau milieu du salon, toutes fenêtres ouvertes, la bourdonnante, la radieuse petite boîte à ordures, la radio.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui accorde-t-elle de l'importance aux objets? Elle est à l'affiche après-demain du nouveau film de Julie Bertuccelli, La dernière folie de Claire Darling, le portrait d'une femme persuadée qu'elle va mourir, qui vide sa maison de tous les objets qui l'ont accompagnée le long d'une existence jalonnée de deuil, de culpabilité, de solitude, de silence. Bonjour Catherine Deneuve.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Avant toute chose, quelle relation est-ce que vous entretenez avec les objets, vous?
Une relation excessive. Très excessive. Moi, j'aime beaucoup les objets. La plupart des objets que j'ai chez moi sont des choses que j'ai acquis. Donc, ils sont liés à un souvenir, un lieu de tournage, une ville visitée, enfin, ou un coup de cœur comme ça dans Paris. Mais je me souviens de presque tout, hein, pratiquement tout. Non, moi, je suis un peu envahie par les objets. Moi, c'est très excessif chez moi. C'est très, très encombré.
Par exemple, si on prend vos tenues Yves Saint Laurent qui ont été vendues aux enchères il y a peu chez Christie's, ça vous a fait quoi
de s'en séparer ? Très différent. C'est très différent. Je savais depuis un moment que je pouvais pas continuer à garder ces vêtements puisque je me séparais de ma maison et que c'était un immense grenier dans lequel tout ça était très bien entretenu et tout ça. Donc je savais que j'allais pas pouvoir mettre ça au garde-meuble et dire on verra dans un an ni rien. Donc voilà, ça me semblait juste dans la mesure où c'est pas comme si ma fille, vous savez, était dans la continuité et s'était dit « Oh maman, les vêtements Saint-Laurent ». À ce moment-là, non, c'est vrai que je les aurais gardés pour elle en grande partie, mais c'était pas le cas. Donc franchement, je trouvais que c'était le moment de s'en séparer. Parce que des vêtements de cette valeur, je dirais, sentimentale, enfin pas seulement pas sentimentale, mais de cette valeur...
Historique, presque.
Oui, voilà, presque historique par rapport à Yves Saint-Laurent. Je trouvais qu'il fallait que... Il fallait que ce soit acheté par des gens qui en ont conscience, qui ont le goût de ça. Je veux dire, parce que tout a été éparpillé et je trouve ça très bien.
Entre nous, vous en avez gardé certaines quand même.
Très peu, très très peu. Ah oui, non, très peu.
Et ces 3-4 choses, ce sont des pièces dont vous ne parveniez pas à vous défaire?
Non, j'avais plutôt décidé de garder ces 3-4 choses qui étaient assez symboliques de certaines époques. Voilà, avec, donc j'ai gardé, oui, c'est ça, une veste un peu genre chinoise, une veste un peu du soir, un smoking et puis... je sais plus 2-3 choses, mais pas plus, non.
Au fond, qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet pour vous? Son histoire, sa mémoire?
La valeur d'un objet, c'est extrêmement relatif. Moi, je collectionne, enfin, je collectionne pas d'ailleurs, c'est pas vrai. J'ai énormément d'objets dans des domaines extrêmement différents. Donc, c'est un coup de cœur, une attirance comme ça réciproque pour un objet. C'est pas forcément sa valeur. Voilà, moi je me souviens avoir acheté un jour dans une brocante des cannes à pêche, je ne pêche pas. Et parce que la petite boîte qui accompagnait ces cannes à pêche, c'était donc un matériel de... Il y avait une petite boîte en métal et dedans, il y avait plein de petits chats faits en mie de pain. Vous savez, la mie de pain, quand ça durcit, c'est presque comme du bois. Des petits chats comme ça qui bougeaient en mie de pain. Et c'était pour moi tellement incroyable et tellement étonnant et tellement particulier que j'ai acheté ces cannes à pêche pour pouvoir avoir la boîte avec les petits chats en mie de pain, vous voyez.
On pourra la revendre chez Christie's, Catherine.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, il en est évidemment question hein, dans le film de Julie Bertuccelli, La dernière folie de Claire Darling, qui raconte l'histoire d'une femme, je le disais, qui toute sa vie a collectionné les objets de valeur et qui, du jour au lendemain, parce qu'elle pense qu'elle va mourir, décide de tout liquider. De quoi est-ce qu'elle essaie de se débarrasser, à votre avis, cette femme?
D'une chose dont elle pourra pas se débarrasser, un mélange de culpabilité, de un fond de tristesse quand même très 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 grand. Mais sans doute que c'est peut-être oui, pour elle le début de quelque chose, d'une forme de liberté. En tous les cas, une liberté qu'elle a besoin de retrouver avant de passer de l'autre côté.
En tout cas, elle essaie de faire le vide dans cette maison qu'elle habite, dans un village de l'Oise, demeure familiale, dans laquelle elle a, semble-t-il, vécu toute sa vie. On en parlait récemment dans cette émission au sujet de Colette, chez qui la maison est un lieu central. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, la maison ?
À la maison, c'est la maison avec un grand M, oui. Ce que j'appelle la maison, celle qui est le centre, qui réunit les proches, tout ça, quand on se retrouve à Noël ou pour les anniversaires, c'est la maison, celle qu'on fait vivre, qui vit vraiment. C'est très important pour moi, c'est très important, oui, ça l'a toujours été.
Vous en avez eu beaucoup des maisons ?
Non, très peu, très très peu, j'en ai deux.
Et la maison associée à l'enfance, Catherine Deneuve ? Elle ressemblait à quoi ?
Moi, ce qui est associé à l'enfance, c'est l'endroit où on était, mais la maison de mes parents n'était pas très intéressante. C'est un ancien garage à bateaux en Seine-et-Marne, mais c'est un endroit où j'adorais aller parce qu'on traversait la Seine en bateau, on avait des amis de l'autre côté de la Seine. Moi, j'ai adoré ces vacances à la campagne quand j'étais jeune. Mais la maison elle-même était vraiment minuscule. C'est une chose qui avait été construite, encore une fois, sur un garage à bateau. Donc, c'était un peu de briques et de broc. Mais vous voyez comme quoi ça n'a absolument rien à voir avec la réalité des lieux. Quand on est enfant, c'est autre chose. Ah oui, c'est des souvenirs formidables.
Vous avez gardé des objets de cette maison d'enfance ?
Non, parce qu'il n'y a pas tellement d'objets. On était assez nombreux dans cette maison qui était petite, donc c'était plutôt des choses fonctionnelles. Non, j'ai pas de. Non, ma sœur est toujours dans cette maison les vacances, l'été, donc non.
Parce qu'au cœur du film et à travers les objets, ce qui se joue en réalité, c'est un enjeu de transmission. Il est question notamment d'une bague magique, dont la tradition veut qu'elle se transmette de mère en fille lorsque la fille se marie. Ce genre de tradition, il a cours aussi dans votre famille ?
Ah, pas du tout. Non, alors pas du tout, du tout.
Cela dit, pas de mariage, pas de bague, Catherine, on est d'accord.
Oh, mais il peut y avoir des fiançailles quand même.
Ouais. Dans ce cas-là, il y a une bague.
Dans ce cas-là, il y a une bague pour les fiançailles.
Alors on l'achète, on ne la transmet pas.
Ah oui, c'est vrai. Oh, si, je crois que ça se donne aussi, la bague de fiançailles. Enfin, j'en sais rien, je ne suis pas une spécialiste en la matière. Non, chez nous, non. Fiançailles, mariage, je ne sais pas. Non, on ne transmet pas ça, non.
Qu'est-ce que vous avez l'impression que votre mère, au-delà d'un objet symbolique, d'ailleurs, vous a transmis à vous ?
Je crois qu'elle m'a transmis une chose quand je regarde en arrière, en pensant à l'enfance qu'on a eue, parce qu'on était quand même nombreuses, on était quatre filles. Sa facilité, que moi je crois que je n'aurais pas, à faire vivre tout ça sans drame, sans heurts, dans des endroits, dans des appartements très petits où on habitait, et que tout ça reste possible sans que ce soit des drames, sans qu'on nous oblige à faire... Vous voyez, quand les maisons sont petites et qu'on est nombreux, il y a un côté un peu militaire, ranger son lit, faire son lit, ranger ceci... Non, ma mère, c'était pas ça. Donc, on a été malgré tout assez libre dans ces endroits minuscules.
Une liberté, une légèreté aussi.
Oui, absolument. Oui, ma mère, elle avait beaucoup de fantaisie.
Et à votre fille, Chiara Mastroianni, qui joue le rôle de votre fille dans le film, qu'est-ce que vous avez essayé de lui transmettre ?
Bah, j'ai pas essayé de lui transmettre, si vous voulez, le goût que moi j'ai pour les objets. D'abord, parce que je crois que alors les objets, sauf des choses qui sont liées à des souvenirs personnels, elle est pas du tout objet. Mais je pense que mes enfants étaient saturés quand même par les objets qu'il y a chez moi. C'est vrai que c'est un peu ma fille, je ne sais pas, l'envie de toujours de regarder ailleurs, de se promener, d'avoir la curiosité. Je trouve que c'est très important dans la vie, la curiosité.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en réalité, être une mère, Catherine Deneuve ? Parce que quelque part, c'est ça aussi le film, le portrait d'une mère.
Oui, le portrait d'une mère en creux, parce qu'on ne saura jamais vraiment exactement quelle a été la relation entre cette mère et cette fille, mais on voit bien que ça a été très, très difficile. Mais comme.
Alors, c'est pas vous, c'est le chien, c'est Jack.
Ouais, non, c'est pas mon bracelet qui fait ce bruit-là, non. Être une mère, pour moi, c'est une chose que j'ai souhaitée très très jeune. J'avais envie d'avoir un enfant à 15 ans.
Pour transmettre, justement ?
Non, pas du tout. Pour mon plaisir égoïste d'avoir un bébé, j'adore les bébés. Encore aujourd'hui, je veux dire, quand je vois les bébés, moi, c'est une chose qui me. Oh, j'ai envie de les toucher, prendre un petit pied, toucher une petite main. Ce que je fais des fois, même dans la rue, ça m'arrive.
C'est très gênant, ça.
Oui, mais je le fais discrètement, quand même. Et en général, quand on attrape un petit pied comme ça, on voit un petit œil qui se regarde, qui vous regarde d'un air très... en disant, qu'est-ce que vous faites ? C'est très, très mignon. Non, mais c'est plutôt... Bon, c'était ça, c'était vraiment une envie d'enfance et une envie de bébé avant tout.
Celle qui n'est pas le moins du monde maternelle dans cette émission, vous la connaissez très bien, puisque ça fait quand même la troisième fois que vous venez dans Boomerang, c'est la culture et son actualité marâtre, vipère au poing et mauvaise comme la teigne. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 5 février ?
C'est pas compliqué. Tu veux qu'on te prenne pour une fille ou pour un mec ?
Fille.
Et voilà.
Et les lumières furent. Hier soir, la cérémonie des prix Lumière remis au cinéma français par la presse étrangère a vu le Sacre des Frères Sisters, le western de Jacques Audiard, qui repart avec 3 récompenses, dont celle du meilleur film. Dans le reste du palmarès, on retrouve notamment Guy d'Alex Lutz, auréolé de 2 prix, et surtout l'incontournable Girl de Lucas Dont, révélation de l'année, et Film France Inter, qui a été élu meilleure œuvre francophone après avoir triomphé ce week-end au Magritte, équivalent belge de nos Césars. Bravo une fois, bravo 1000 fois.
I hear about this Banksy. Who's Banksy, Banksy, this?
L'amour à la poubelle, c'est le titre de la fameuse toile de Banksy qui s'était partiellement autodétruite lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. En octobre dernier, vous vous souvenez, ça en avait fait instantanément l'une des œuvres les plus célèbres au monde, représentant une jeune fille qui regarde un ballon en forme de cœur lui échapper. Le tableau à moitié lacéré est présenté aujourd'hui au public pour la première fois, prêté au musée Frieder Burda de Baden-Baden en Allemagne. Il sera visible pendant 1 mois gratuitement. Merci qui ? Merci Banksy. Tout simplement la meilleure. À bientôt 80 printemps. Tina Turner s'apprête à sortir demain son autobiographie publiée chez Harper's Collins. Avec la diva rock aux 200 millions d'albums vendus, on revit le succès foudroyant, les tubes en cascade, les tournées délirantes, mais on découvre aussi les zones d'ombre de la légende. Dans le livre, Tina revient sur le suicide de son fils, la maladie, et confesse aussi quelques secrets inédits, comme le fameux épisode de striptease avec Mick Jagger, qui n'était pas si accidentel que ça. Viva Tina. Et gros plan sur Travelling, le festival de cinéma de la ville de Rennes, qui célèbre aujourd'hui ses 30 printemps. Au programme de cette édition 2019, un focus sur les villes-monde, notamment dans les œuvres de Wim Wenders, Wong Kar-wai et les frères Safdie, mais aussi un hommage au cinéma de Jia Zhangke, chef de file du 7e art chinois indépendant, et des projections aussi de grands classiques restaurés choisis sur vote du public, comme Taxi Driver, La Dolce Vita ou Metropolis de Fritz Lang. Catherine Deneuve, invitée de Boomerang ce matin. Alors, la semaine dernière, nous quittait Michel Legrand, que vous avez bien connu, ne serait-ce que par sa collaboration avec Jacques Demy.
Oui, c'est surtout ça d'ailleurs. Oui.
Et quels sont les souvenirs qui restent justement pour vous attachés à sa musique ?
Il me reste le souvenir d'avoir assisté à l'enregistrement de la musique des Parapluies de Cherbourg, et qui m'avait vraiment bouleversée. Et je me suis rendu compte là que même sans le film, même sans la musique de Michel, était absolument... absolument incroyable, enfin d'émotion, c'était fou. Je me suis rendu compte avant même de tourner que c'était vraiment quelque chose de très poignant. Donc moi, quand j'ai tourné en playback, puisque le film c'est un opéra chanté, donc c'est entièrement enregistré avant, on est quand même porté par la musique, ça aide énormément.
Mais alors pourquoi on vous a pas laissé chanter, parce que vous chantez très bien, vous avez entendu chanter Françoise Hardy dans l'émission qu'on consacrait jeudi dernier à Claude Lévesque.
Oui, enfin, je le chantais avec une toute petite voix, comme Claude me l'avait demandé. D'ailleurs, non pas que j'ai une voix de stentor, il m'avait demandé de la faire vraiment très, très douce, comme ça, très, très basse, très fragile. Non, mais parce que d'abord, je chante pas vraiment, je suis pas une chanteuse, c'est que la musique de Michel Legrand est très difficile à chanter. Très difficile.
Bah, on a tous essayé, on s'est tous cassé la gueule, ça c'est ça.
Non, parce que tout le monde, on peut fredonner, Michel Legrand, tout le monde fredonne, les demoiselles, Podal, le gâteau, tout ça. Mais chanter vraiment la musique de Michel, comme dans Les Parapluies par exemple, non, c'était impossible, ça n'a jamais été envisagé même.
Alors Jacques Demy, il a fait en quelque sorte son retour sur scène dans Les Idoles, une pièce de quelqu'un que vous aimez beaucoup, Christophe Honoré, avec qui vous avez tourné plusieurs fois, je crois que vous l'avez vu.
Oui, bien sûr, je l'ai vu, oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, j'ai trouvé ça absolument formidable, d'audace comme ça, d'invention. C'est une actrice qui joue le personnage de Jacques Demy, elle est absolument extraordinaire.
Et ce qui est passionnant, c'est que Jacques Demy, il occupe une place un peu à part parmi les artistes que fait revivre Christophe Honoré. C'était le plus secret, à la fois concernant son homosexualité, mais aussi sa séropositivité. De quoi ce silence, pour vous, était-il le nom?
D'une envie de vie privée, je pense, du fait qu'il était quand même... marié avec Agnès Varda, qui avait déjà une petite fille. Et puis je pense qu'il était très, très pudique. Oui, il n'avait pas envie de... C'était vraiment sa vie privée. D'ailleurs, dans la pièce, Christophe Honoré, il crache des trucs quand même assez directs et assez... Mais je trouve que c'est bien, parce qu'il y a un moment, je veux dire, bon, c'est quand même le temps à passer. Et après tout, je ne sais pas quel a été vraiment le rôle d'Agnès Varda dans tout ça, parce qu'elle ne l'a jamais vraiment non plus proclamé, jusqu'à ce qu'elle fasse les plages d'Agnès, dans lesquelles elle jette comme ça cette chose sur le sida de Jacques Demy. Moi, ça m'avait beaucoup troublé parce que c'était un secret jusqu'à là.
Vous le saviez ?
Ben, je l'ai su, si vous voulez, après la mort de Jacques, je l'ai su après, oui. Mais personne ne me l'a dit, non, très clairement.
Mais vous qui avez toujours été extrêmement engagée, Catherine Deneuve, pour la lutte contre le sida, comment est-ce que vous l'avez vécu, ce tournant des années 80-90?
Ben, je l'ai vécu comme beaucoup de gens qui ont été touchés par la perte d'amis. J'étais très... J'ai perdu des amis, j'ai accompagné des amis, c'était très, très dur. Enfin, ce ne sera jamais aussi dur que pour ceux qui, évidemment, l'ont vécu. C'était vraiment quelque chose de très, très, très bouleversant.
Vous étiez en colère?
Non, j'étais très triste. J'étais tellement triste que je ne pouvais pas être en colère. Non, c'était nouveau, donc on savait que ça prendrait du temps. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps de trouver la trithérapie, tout ça. C'était vraiment... Mais non, c'était la tristesse qui l'emportait.
Il y avait quand même un certain nombre de tabous, le tabou qui concernait la sexualité, notamment. Ça vous embêtait pas, ça?
Ben, on n'en parlait pas, mais enfin, franchement, moi, tous mes amis qui étaient homosexuels, on n'en parlait pas, mais c'est comme ça, c'était une évidence. Finalement, on s'est aperçu surtout avec les réactions de beaucoup de gens et devant la maladie et devant les malades qu'il y avait une espèce de crainte, de phobie et même de rejet d'une certaine façon. On a beaucoup plus parlé de l'homophobie à partir du moment où il y a eu le sida qu'avant.
Pour vous, qu'est-ce qui est tabou aujourd'hui dans notre société? De quoi on peut pas parler? De quoi on n'a pas le droit de parler? Parce que je sais que les tabous, vous n'aimez pas ça, Catherine Deneuve.
Ben, j'aime pas ça, et des fois, il faut quand même penser que les tabous, c'est un moyen de laisser le couvercle comme ça tenir pour empêcher les choses de déborder. Il faut quand même, quand on vit dans une société, nous sommes nombreux et tellement différents, de temps en temps, il faut des choses quand même pour bloquer un peu, pour pas que les choses explosent tout le temps, je veux dire, parce que c'est pas forcément la solution.
Et Dieu, c'est terrible. C'est à vous aujourd'hui, Dieu?
Et Dieu dans tout ça?
Ouais.
Quoi, Dieu dans tout ça, quoi?
Est-ce qu'il est à vous d'en parler?
Non, bon, non, il est pas à vous d'en parler, non.
Vous y croyez en Dieu, vous?
Non, je crois pas en Dieu, je crois en une croyance nécessaire pour vivre, mais je crois pas en l'au-delà, non.
C'est Dieu qui m'a dit de le faire. Vous êtes incroyable. Vous passez votre temps à vous adresser à Dieu, mais si c'est Dieu qui vous parle, alors là, non, vous n'y croyez pas. Dieu, ça vous dit quelque chose? Moi, j'aurais voulu mettre un peu d'ordre dans cette maison avant de mourir. Mais tout a été si dur. Si dur. Et puis tous ces objets, ils m'ont accompagné, chacun un peu, à leur façon. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin.
Claire, vous faites peut-être une sorte de crise. Vous vous êtes toujours senti coupable. Peut-être est-ce le moment, avec le temps qui passe, on éprouve souvent le besoin de faire un ménage intérieur.
Oh non, non, je vous en prie, non. Gardez votre petit laïus pour vos petites vieilles. Mais non, il ne s'agit en rien d'un ménage intérieur. On part à moi, Georges, quand même. Oh non, mais cherchez autre chose, creusez-vous un peu la tête. Une seule pensée, mais qu'elle soit juste et profonde. Et surtout, ne commencez pas par les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein. Ah non.
Catherine Deneuve et Joanne Lessen dans La dernière folie de Claire Darling.
J'adore cette scène. On la sent comme ça, tellement perdue, tellement éperdue, attendant de ce prêtre quelque chose. Elle lui dit, oh non, allez, gardez vos discours pour vos petites vieilles, hein, c'est pas... ça me fait beaucoup rire ça.
Votre dernier ménage intérieur, à vous, il date de quand?
Ah oui, non, mais j'en suis pas là, moi. Je pense que le ménage intérieur, c'est, je sais pas, ça va être par période.
Ce qui surgit, en tout cas, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est la question de la culpabilité, qui est toujours passionnante à interroger. Il vous est arrivé de vous sentir coupable?
Mais évidemment. Mais évidemment, j'ai été élevée par des religieuses jusqu'à ce que j'aille au lycée, donc vous pensez bien que je suis marquée à vie, comme les garçons sont marqués par les jésuites. Bien sûr, je suis marquée à vie par ça.
Par le sceau de la culpabilité.
Ben oui, ça, malheureusement, c'est l'éducation judéo-chrétienne, il n'y a rien à faire.
Alors comment on fait pour vivre avec la culpabilité?
Ben, on s'en débarrasse de temps en temps, on donne un coup de pied, on repart ailleurs, on essaye de continuer, mais c'est, enfin, bon, c'est moins qu'avant, mais j'ai quand même encore des réactions de culpabilité. Ben oui, bien sûr.
Vivre avec la culpabilité dans ce film, c'est aussi vivre quelque part avec des fantômes. Vous en avez beaucoup, des fantômes, vous?
Non, mais j'en ai quelques-uns, oui. J'en ai quelques-uns.
Vous ne pouvez pas me dire qui c'est?
Non, parce que ce sont des fantômes très, très proches et des gens qui comptent beaucoup pour moi, donc voilà.
Et je sais qu'il y a quelques fantômes dont vous avez souhaité qu'ils nous reviennent ce matin. Le premier, c'est celui de Leonard Cohen.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu entendre sa voix?
Parce que je trouve qu'il a une voix extraordinaire. Et je trouve qu'à la radio, sa voix, c'est incroyable.
Et quand vous l'entendez, vous pensez à quoi?
Ça me rappelle toute une époque, le Canada, Montréal, des tournages, des... Quelque chose de profond et de bienveillant.
Alors on l'écoute. Leonard Cohen, l'un de ses plus beaux morceaux, à mon avis, Chelsea Hotel No. 2, sur l'album New Skin for the Old Ceremony en 1974. Vous êtes sur France Inter avec Catherine Deneuve. Vous écoutez Boomerang un lundi matin, au début du mois de février. Tout va bien.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est quand même la troisième fois que j'essaye de la décrire, et c'est vrai qu'avec elle, on a déjà l'impression d'avoir tout dit et tout osé. Vous avez eu droit à la reine Catherine, à la reine mère, à la queen Christine, tutti quanti, ça suffit.
Ça suffit.
Aujourd'hui, ce n'est pas une reine qui se tient devant moi, mais une femme, comme vous et moi. Une femme avec qui on irait au cinéma, avec qui on regarderait une série dans un canapé. Une femme dont on aimerait qu'elle nous invite à déguster un poulet, dans sa grande cuisine, au milieu de laquelle trôneraient d'antiques fourneaux. Une femme avec qui on irait au marché, en bottes, pour discuter avec les producteurs locaux. Une femme avec qui on accepterait volontiers de bêcher, biner, retourner la terre avant de planter des tomates ou des haricots verts. On a envie de simplicité. Avec son pull en Shetland gris, ce matin, Catherine Deneuve, invitée de Boomerang, pour la dernière folie de Claire Darling, de Julie Bertuccelli, qui semble insister dès les premiers plans sur votre corps, sur vos mains notamment, sur vos cheveux qui sont gris dans le film, sur votre visage. Et je me suis demandé s'il y avait eu un moment dans votre vie où vous en aviez pas eu assez qu'on vous regarde, qu'on vous filme, qu'on vous photographie, Catherine?
Il y en a des questions dans cette énonciation-là. Écoutez, oui, bien sûr que ça m'arrive d'avoir assez qu'on me filme, parce que les gens vous filment sans vous demander. Quand on me demande, en général, je dis non, poliment, mais je dis non. Enfin, c'est surtout les photos, c'est surtout ça, dans la rue, au restaurant, partout. Oui, bien sûr qu'on peut en avoir assez, mais en même temps, j'oublie jamais que... il y a une partie de moi qui fait vraiment partie de ça, qui m'appartient pas tout à fait, donc... voilà, depuis le temps, ça fait tellement longtemps que je vis publiquement, que voilà, je crois aussi, moi qui suis plutôt assez secrète, ça m'a quand même permis de développer ça et d'avoir une vie vraiment bien à moi. J'ai su vraiment me protéger très tôt parce que j'étais confrontée très jeune à ce qu'était vraiment la presse, les photos, les choses un peu violentes dans des journaux un peu violents aussi.
Et vous semblez vous être résignée quand vous en parlez. C'est une sorte de résignation.
Non, je ne suis pas résignée, mais c'est une acceptation. Mmh. Alors, il y a des jours où on l'accepte plus ou moins bien, mais c'est quand même une acceptation. Non, résignée, non. Non, parce que ça m'arrive vraiment de dire non, ça peut m'arriver de changer d'avis. Et de... Mais je suis habituée à être sous le regard des gens. La chose qu'il y a aussi, c'est que je n'y pense pas tout le temps. Hein. Mmh. D'abord parce que j'habite dans mon quartier depuis très longtemps. Donc, dans mon quartier, je suis connue comme le loup blanc.
Donc, La louve blanche.
Disons que je suis protégée de ça. C'est plutôt le week-end où c'est plutôt un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Saint-Germain. Mais non, ce n'est pas de la résignation, c'est une acceptation.
La première fois que vous êtes vue sur un écran de cinéma, vous vous souvenez?
Non, je pense que ça devait être chez mon oncle, il nous filmait quand on était enfant, avec mes cousins, mes sœurs, tout ça, je crois que ça doit être ça. Et après, sur un écran, dans un film, je pense que c'était le film que j'ai fait avec ma sœur, Les Portes Claquent, mais je n'ai pas de souvenir particulier.
Et vous vous dites quoi quand vous vous voyez sur un écran de cinéma? Vous acceptez de regarder?
Ben oui, pourquoi, oui.
Enfin, souvent, les acteurs sont un petit peu pudiques et n'aiment pas trop se revoir, voient les détails, les problèmes.
Moi, j'aime pas trop me revoir dans les films, mais c'est vrai que si c'est un film ancien que j'ai pas vu depuis longtemps, je peux rester 5-10 minutes à regarder Le Sauvage ou Les Parapluies qui est beaucoup passé suite à la mort de Michel Legrand, mais pas plus que ça, non.
Et vous êtes dit quoi quand vous l'avez revu, Les Parapluies?
Ça fait quelque chose que, curieusement, reviennent des images. Je me souviens très bien du tournage, des haut-parleurs dans la rue, on tournait de nuit, c'était quand même... Oui, il y a des images qui reviennent tout de suite, oui.
Vous avez toujours été à l'aise devant un objectif?
Oh non, je ne pense pas que j'ai toujours été à l'aise. Non, j'ai réussi à devenir amie avec la caméra, d'une certaine façon, parce que c'est ce qu'il y a de plus proche, après votre partenaire, c'est ce qu'il y a de plus proche avec le film, c'est la caméra. Mais non, au début, je ne pense pas que j'étais aussi à l'aise. D'abord parce que de nature, je suis moins timide, mais j'étais vraiment très timide. Mais au début, oui, c'est vrai qu'on est un peu... c'est impressionnant. Non, maintenant, c'est une amie.
C'est vrai qu'on se demande parfois, quand on vous parle, dans quelles circonstances vous manquez d'assurance. On a l'impression que vous en avez énormément.
De l'assurance, ouais. Ah oui ouais. Oh, là, ça s'est acquis au fil des années, mais je peux vous dire qu'il m'a fallu quand même beaucoup de temps. C'est ma voix qui a un côté posé comme ça, qui donne l'impression de...
Il y a eu un tournant quand même, à un moment, où vous avez pris pouvoir.
Écoutez, d'une certaine façon, j'ai l'impression que j'ai dû prendre le pouvoir quand j'ai perdu ma sœur. Vis-à-vis de mes parents, de mes sœurs, tout ça... Donc c'était quand même il y a très 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 longtemps. Donc ça ne se manifestait pas, je crois non plus, d'une façon très directe, mais indirectement, j'étais là, j'étais quand même une certitude pour...
Pour tenir, disons, aussi.
Oui, se tenir et puis surtout accompagner mes parents, mes sœurs. Voilà, j'étais un petit pilier. Donc voilà, mais enfin ça ne s'est pas fait non plus tout de suite.
Il se trouve que c'est un extrait de La Peau Douce que vous avez souhaité nous faire entendre ce matin, ce film de François Truffaut en 1964, avec une voix que vous connaissez bien.
Écoute Pierre, il y a eu un grand malentendu entre nous. Quand t'as voulu me revoir à Paris, j'étais très touchée parce que je croyais que tu me jugeais mal. Tout ça a été si rapide à Lisbonne. Quand tu m'as emmenée ici, je me doutais bien de ce que c'était. Mais si tu m'avais parlé de cet appartement, je t'aurais tout de suite dit ce que j'en pensais. Oh, Marc, tu as bien fait de précipiter les choses, d'aller trop vite. Parce que, au fond, on aurait traîné encore quelque temps. Tout ça pour en arriver au même point. C'était inutile. Je suis sûre que tu as beaucoup de peine, mais tu sais, j'en ai moi aussi. Si tu veux... En tout cas, moi, ça me ferait très plaisir, on pourrait... Se voir de temps en temps, dîner ensemble.
Non.
Je suis désolée. Au revoir, Pierre.
Françoise d'Orléac dans La Peau Douce. Pourquoi ce film-là, Catherine Deneuve?
Parce que je trouve que c'est un film qui rend tout à fait justice à son talent et à sa beauté. Et que voilà, c'est un film comme ça qui a beaucoup compté pour elle. C'était très important. Elle était à Cannes en même temps que nous pour Les Parapluies de Cherbourg. Ça a été vraiment un moment vraiment difficile. Difficile parce que Les Parapluies pas seulement parce que Les Parapluies a gagné, mais parce que le film a été rejeté. Le film était très, très dur quand même et très, extrêmement triste. Et je pense trop triste, trop proche d'une certaine réalité. Donc il a fait fuir dans un premier temps beaucoup de gens. Même si aujourd'hui, La peau douce fait partie quand même des grands films de François Truffaut.
Vous l'avez revu, La peau douce,
oui,
récemment?
Plusieurs fois. Non, pas récemment. Ça, c'est une chance, parce que moi, avoir la voix de ma sœur, c'est quand même... C'est tellement présent, la voix, ça ramène tellement, je veux dire, à la personne physique, c'est quand même assez étonnant. Je sais que souvent, les gens vous disent, je me souviens presque plus de sa voix. Or, moi, je sais que j'aurai toujours sa voix, donc c'est vraiment quelque chose d'important.
Et qu'est-ce que vous entendez dans sa voix? Qu'est-ce qu'elle a, sa voix?
Alors là, dans cette scène, la scène de rupture, sa voix, là, elle est un peu altérée, comme quelqu'un qui parle un peu, pas vraiment sur le souffle, mais enfin quand même, une voix qui n'est pas posée, une voix de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de difficile et qui se retient un peu. Rien, c'est elle, voilà, c'est ça, cette voix, c'est elle.
Je vais vous dire, en tant que spectateur, c'est pour ainsi dire impossible de ne pas penser à elle quand on voit La dernière folie de Claire Darling.
Ah oui.
Parce que je trouve qu'elle apparaît dans votre regard à chaque fois que votre personnage voit le fantôme de son fils.
Ah oui, oui, oui.
C'est fort d'arriver jusque-là.
Mais le film de Julie Bertuccelli est très mélancolique. Il y a des moments de folie comme ça que je trouve assez drôle, mais sinon c'est un film très, très mélancolique. Car cette femme qui a vécu dans cette maison avec tous ces objets, c'est pas non plus sa collection. On sent que c'est une maison de famille qui a toujours été chargée par les différentes générations et parce qu'il y a des choses très anciennes, des automates, des choses vraiment qui font pas partie de, c'est très hétéroclite. Je veux dire, la collection qu'elle a de, donc c'est une collection de famille. C'est pour ça aussi que pour sa fille c'est si choquant. Elle voit le portrait de sa grand-mère qui s'en va. Enfin, c'est.
Mais vous y avez pensé, vous, à vos fantômes? En jouant une femme accablée par ses fantômes?
Par moment, oui, peut-être un peu. Pas souvent, mais par moment. Enfin, j'y pense déjà suffisamment souvent.
Merci infiniment, Catherine Deneuve, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Merci pour votre générosité, votre confiance aussi ce matin. Je rappelle que La dernière folie de Claire Darling, de Julie Bertuccelli, avec Chiara Mastroianni, Laure Calami, Alice Taglioni, entre autres, sera après-demain. C'est un très beau film. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Le soir. Déplie ses voiles sombres, enveloppe les toits, les trottoirs et les bois, et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Fidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux. Des perdants silencieux, au fond de nous, l'étincelle, dans le calme orageux, cet éclair dangereux, des héros silencieux.
L'étincelle sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias. Sonia De Villers
et
Fabrice
Arfi.
Ce matin.
Ouais, on est là, on est au Tech et Augustin. Salut, à demain.
Je vous écoute, salut.
Ciao.